Europe 1.
5h, 7h.
Mathieu Noël.
Bonjour à tous, bienvenue sur Europe 1. Il est 4h57, nous sommes le vendredi 17 mai 2019. Et vous savez, certes, il reste encore techniquement 14h avant l'afterwork du week-end, mais le week-end, c'est avant tout un état d'esprit. Rien ne vous empêche de le faire démarrer dès maintenant si vous le souhaitez, comme Eva Rock et Céline Dacosta.
Vive Anthony.
Bonjour mesdames.
Bonjour.
Quand est-ce qu'on a
c'est déjà un peu le week-end,
je ne sais pas.
Moi-même, je ne le sais pas.
Moi-même,
parfois, j'ai du mal à m'immiscer dans vos cerveaux. Musique de fête justifiée, car nous célébrons aujourd'hui la journée mondiale des télécommunications et de la société de l'information qui a pour but, je cite, de sensibiliser l'opinion à l'utilisation d'Internet et des technologies de la communication afin que chacun arrive à un niveau de maîtrise comparable au nôtre.
Putain de merde! Qu'est-ce qui se passe là?
Qu'est-ce qu'il y a?
J'ai l'ordi qui plante, il n'y a rien.
Putain, mais c'est pas vrai! Mais qu'est-ce qui se passe là?
Debout les copains, nous allons vous faire aimer l'an 2000. En attendant, un point sur la météo du jour, Céline.
Bah, c'est pas génial.
On avait dit. Il a fait beau toute la semaine et là enfin, on va
c'est
pas
vrai.
Profiter du. Et il fait moche.
C'est le week-end, c'est ballot. Hein. Oui, de la pluie, alors surtout sur la moitié sud. Hein. On aura encore quelques éclaircies pour la moitié nord ce matin, mais la pluie va arriver également par les côtes de la Manche. Donc bon, bah, c'est un presque début de week-end pas franchement terrible.
Oui, bah, j'ai bien compris, j'ai bien noté, Céline, merci.
Voilà.
17 mai, il nous faut souhaiter un joyeux anniversaire à l'humoriste Jean-Marie Bigard. Qu'est-ce qu'on pourrait lui offrir, Céline, une idée de cadeau?
Oh, faire des photos de nos culs, tu vas voir.
Oui, bah, là, pour une fois, je veux dire, c'est plutôt bien ciblé. Ouais. Attention, le 17 mai est aussi date importante pour les cinéphiles, puisque Jean Gabin aurait eu 115 ans. La bête humaine, la grande illusion, un singe en hiver, la traversée de Paris. Tiens, on va se réunir après l'émission et boire un verre en votre honneur, monsieur Gabin. Enfin, un verre, hein, un petit verre, hein, parce qu'avec nos rythmes de travail, nos vies, toute cette pression, on doit faire attention.
Mais c'est bien ce que je vous reproche. Ah. Vous avez le vin petit et la cuite mesquine dans le fond, vous méritez pas de boire.
Bon, je vous en prie, Jean. Oh. Je vous en prie, Eva, dites quelque chose.
C'est bon, Bélaise, avec des glaçons.
Ah ben voilà, on va moucher. Eva, petite question de nos auditeurs.
C'est l'anniversaire aussi de Tony Parker.
C'est vrai,
mais
Tipeee.
Oui. Alors à cette occasion, on vous demande qui est votre sportif préféré de tous les temps. Vous pouvez même citer des
sportifs
retraités.
Jean-Pierre Papin, question suivante.
Voilà, et bien vous répondez sur Twitter avec le hashtag Europe 1.
Merci, vous écoutez. L'émission qui dès 5h vous informe et vous transforme en dessinant sur votre doux visage un sourire ravi qui ne vous quittera plus tout au long de la journée. Et aujourd'hui, c'est d'autant plus facile que...
Aujourd'hui, c'est vendredi.
Vous pensiez que vous alliez échapper? Certainement pas. Debout les copains, c'est parti.
Et nous sommes le vendredi 17 mai. Merci d'avoir choisi Europe 1. Excellent réveil, il est 5h. 5h, 7h, Mathieu Noël.
Le premier journal de ce vendredi 17 mai, c'est évidemment avec vous, Jérôme Lacroix, bonjour.
Bonjour Mathieu et bonjour à tous.
Les titres.
L'anesthésiste de Besançon, mis en examen pour 17 suspicions supplémentaires d'empoisonnement de patients. Il s'ajoute aux 7 autres pour lesquels il était déjà poursuivi. Il a été laissé libre, placé sous contrôle judiciaire. Les gilets jaunes, ça fait 6 mois jour pour jour. Appel à manifester demain, malgré la baisse de la mobilisation. Et puis l'inquiétude des associations de sécurité routière. Le Premier ministre ouvre la voie à un assouplissement de la limitation de la vitesse à 80 km/h sur le réseau routier secondaire.
Europe 1.
Il est désormais suspecté d'avoir commis au total 24 empoisonnements de patients, dont 9 se sont avérés mortels. Le médecin anesthésiste de Besançon, Frédéric Péchier, a été de nouveau mis en examen hier soir pour 17 empoisonnements sur personnes vulnérables. Il n'a pas été placé en détention provisoire, laissé libre sous contrôle judiciaire. Ces 17 suspicions viennent s'ajouter aux 7 cas suspects précédents pour lesquels ce praticien de 47 ans avait déjà été mis en examen il y a 2 ans. La culpabilité de Frédéric Péchier ne peut être prouvée à ce stade, a détaillé le procureur de la République, mais ce docteur apparaît, je cite, comme le dénominateur commun des événements indésirables graves relevés entre 2008 et 2016 à la clinique Saint-Vincent de Besançon. Jean-Yves Le Borgne, avocat du médecin, affirme lui que les premiers éléments de la justice ne prouvent rien.
Il y a une possibilité que le docteur Péchier ait été l'auteur de ces empoisonnements, mais cette hypothèse n'est pas autre chose qu'une hypothèse et cette longue enquête sur 2 ans n'a rien démontré qu'une éventualité, si bien que dans ce contexte, la présomption d'innocence, je dirais plus que dans tout autre cas, doit être soulignée et nous ne manquerons pas d'en tirer les conséquences, ne serait-ce que sur les voies de recours que nous utiliserons pour obtenir qu'il retrouve une liberté qui doit être la sienne compte tenu de la faiblesse de ce dossier.
Des propos recueillis par Arthur Mbaché, Frédéric Péchier, ni les faits, hein, ils sont passibles de la réclusion criminelle à perpétuité.
Europe 1, il est 5h02.
17 novembre, 17 mai, cela fait 6 mois jour pour jour que le mouvement des Gilets jaunes a débuté. Mobilisation en baisse, environ 19 000 personnes samedi dernier en France. Mais ils appellent de nouveau à manifester demain, 27e samedi, à Paris et en province. Un appel national a été lancé à Reims. Implacable réquisitoire du parquet national financier hier au procès des époux Balkany. Pour le premier volet du procès, celui de fraude fiscale, 4 ans de prison ferme requis avec mandat de dépôt, incarcération immédiate contre Patrick Balkany, 2 ans ferme contre Isabelle Balkany, sa première adjointe à la mairie de Levallois-Perret, et requis contre tous les deux, 10 ans d'inéligibilité. Les époux Balkany seront fixés le 13 septembre.
Et puis Jérôme, c'est ce qu'on appelle une marche arrière.
Édouard Philippe Lage du Lest sur l'un de ses grands combats, l'abaissement de la vitesse à 80 km à l'heure sur le réseau routier secondaire. Après des mois de grogne, le Premier ministre a annoncé hier que le choix de la limitation serait bientôt laissé au conseil départementaux. Alors pourquoi cet assouplissement en forme de recul pour Édouard Philippe? Élément de réponse avec Aurélie Herbemont.
Ne plus tout décider d'en haut, c'est la nouvelle méthode prônée par le chef de l'État et appliquée par le Premier ministre, quitte à donner l'impression de renoncer à sa mesure phare. Matignon refuse d'y voir un recul et parle de pragmatisme. La règle générale restera 80 km/h et au président de conseils départementaux de prendre ou pas la responsabilité de limiter la vitesse à 90 sur certains tronçons. Ils devront se baser sur des rapports d'accidentologie, explique Matignon, où on refuse que ce compromis se traduise par plus de morts sur les routes. Aux élus locaux d'assumer de rester à 80 ou de risquer une hausse des accidents sur une route repassée à 90. Édouard Philippe partagera l'impopularité avec les élus locaux, glissant de ses proches. Certains n'ont d'ailleurs pas manqué de dénoncer la patate chaude transmise par l'exécutif. Matignon fait un pari. Les 80 km/h resteront en vigueur dans beaucoup d'endroits.
Aurélie Herbemont, les partisans de la limitation affichent leur inquiétude. Chantal Perrichon, présidente de la Ligue contre la violence routière à Seine. Nous allons payer le prix du sang, de la pseudo-responsabilité des élus qui préfèrent leur mandat à la sécurité des citoyens. Fin de citation. L'ancien Premier ministre Bernard Cazeneuve, au soutien hier soir à Lyon de Raphaël Glucksmann, tête de liste PS Place Publique, qui tenait une réunion publique, liste autour de 5% d'intention de vote dans les sondages. Et puis Emmanuel Macron à Biarritz aujourd'hui pour préparer le G7 d'août prochain, visite qui avait été reportée en décembre dernier pour cause de grand débat national.
Boeing assure que ses 737 MAX sont prêts à voler à nouveau.
L'appareil mis en cause dans 2 récentes catastrophes aériennes, l'avionneur américain affirme que la mise à jour du système anti-décrochage est prête en attente de certification. Tous ces avions sont cloués au sol depuis plus de 2 mois. Et puis on a appris hier soir, Mathieu, la mort à 102 ans de l'architecte sino-américain Ye Ming Pei, concepteur de nombreux édifices mondialement connus comme la pyramide du Louvre à Paris, qui avait été très très critiquée au départ.
Ah oui, ça c'est vrai.
Ah oui.
On l'a complètement oublié. Et maintenant, nous passons au journal des sports, mon cher Jérôme Lacroix, avec à la une, le marathon de Rome.
C'est bien de tennis que je vous parle pourtant. 55 matchs se sont tenus en une seule journée hier au tournoi italien. Oui, ce grand rendez-vous de terre battue. La programmation de 2 jours en un seul, en fait. Après les fortes pluies d'avant-hier, tous les matchs avaient été annulés. Alors, c'est passé juste pour Federer. Il est en quart de finale, après tout de même le sauvetage de 2 balles de match face au Croate Coric. C'est plus facilement passé pour Djokovic, encore plus pour Nadal, implacable face notamment à Jérémy Chardy, qui était le dernier bleu en lice. La journée a également été marquée par un coup de folie. Le coup de folie de Nick Kyrgios, ce fantasque joueur australien. Il a tout simplement semé la zizanie sur son court. Corinne Boulou.
C'est décidément plus fort que lui. Les nerfs de l'Australien de 24 ans ont encore lâché, cette fois sur le court. La veille, il s'était payé dans les grandes largeurs Djokovic et Nadal, dans une interview à un journaliste américain. Et hier, Nick Kyrgios, capable du meilleur comme du pire, a franchi un cran à Rome. Furieux d'avoir perdu un jeu, il s'en prend d'abord au public, fracasse sa raquette sur le sol, balance une chaise sur le court, avant, à la surprise générale, de ranger ses affaires, de saluer l'arbitre quand même et de quitter le court en plein match. Sabordage en règle de l'Australien, habitué aux frasques diverses et variées, mais là, son énième dérapage risque de lui coûter très cher, une forte amende déjà, et peut-être même une suspension qui le priverait alors de Roland-Garros.
Corinne Boulou et côté dame, la super journée de Kristina Mladenovic. La Française est en quart de finale après les éliminations successives hier des 15e et 9e joueuses mondiales. Du handball et les joueurs de Montpellier consolident leur 2e place au classement de la D1 derrière le PSG déjà champion. Victoire héraultaise hier soir à Nîmes, 25-24 en 23e journée.
On termine, Jérôme, avec le chiffre du jour.
Trois ans qu'un cycliste italien n'avait plus porté le maillot rose de leader sur le Giro, le célèbre Tour d'Italie. C'est Valerio Conti, 26 ans, qui met ce matin fin à l'attente. Il est premier du classement général après 6 étapes. Et qui plus est hier, c'est Fausto Masnada, un autre Italien, qui a remporté cette 6e étape.
On l'en félicite. Merci, oui. C'était le journal des sports de Jérôme Lafont.
Europe 1, les 5h07, Mathieu Noël.
Debout les copains continue avec un point sur la météo, suivi du pressing, notre revue de presse en mode zapping. Et puis, qui n'a jamais rêvé de changer de vie ? Tout est neuf et tout est sauvage. Prendre la route, direction l'inconnu pour se réinventer ailleurs. En mieux, c'est le pari réussi de ces hommes et ces femmes qu'on vous fait découvrir chaque matin dans Fallait Oser. Ce matin, Sylvain, il travaillait dans une usine agricole, il est devenu hypnothérapeute.
Il est 5h08, Mathieu Noël.
C'est l'heure de faire un point sur la météo avec vous, Céline Dacosta. Oui. Une météo un peu décevante à l'aube de ce week-end.
Oui, c'est vrai, ça se gâte un petit peu, on peut dire, parce que la pluie est de retour. Alors surtout sur la moitié sud, hein, particulièrement dans le sud-ouest, avec déjà de la pluie ce matin, des orages pour cet après-midi, quelques ondées également plus au nord, surtout près des côtes de la Manche dans la journée. Avec un ciel bien nuageux partout, il restera quand même quelques éclaircies entre la Normandie et l'Alsace. Quant aux températures, bah, ça baisse hein, sur la moitié sud dans la journée, surtout dans le sud-ouest, on va perdre jusqu'à 10 degrés par endroit. La moyenne ira donc de 12 à 16 degrés dans le sud-ouest, 15 à 20 degrés pour les autres.
Merci beaucoup Céline Evaroc.
Avec mon micro, c'est mieux. Il a 37 ans aujourd'hui. Bon anniversaire à Tony Parker, qui est un de nos sportifs préférés. Mais vous, quel est votre sportif préféré de tous les temps ?
Jean-Pierre Papin.
Même les retraités. Ah. Je crois que vous, c'est vrai, c'est...
Ah bon ? Mm-hmm. Mais je le redirai dans le prochain point.
D'accord, ah oui, j'espère bien. Et bien, sur Twitter, avec le hashtag Europe 1, Thierry nous dit « Dans un temps lointain, il pensait aux frères Spanghero en rugby. » Sonny Bull, elle nous dit « Ginola, quel bel homme. Quel bel homme et talentueux en plus. »
On a dit un bon joueur, un bel homme.
Oui, ouais. Mais c'est ce qu'elle nous dit. Elle nous dit « Je ne regardais que lui pendant les matchs, alors que je ne comprenais rien au match de foot. » Et Sébastien, il nous cite Serge Blanco, Luis Fernandez, Yannick Noah et Martin Fourcade. Vous continuez à réagir.
Belle brochette.
Mais oui, sur Twitter avec le hashtag Europe 1.
Merci à vous.
Europe 1,
5h, 7h,
Mathieu Noël.
Vous écoutez Debout les copains, 2 heures d'infos, de rires et de rencontres inspirantes, comme chaque matin vers 5h10 dans Fallait Oser, la rencontre d'un homme qui a osé changer de vie. Ce matin, Sylvain Michel, 48 ans, qui habite Loudéac dans les Côtes d'Armor. Sylvain a été responsable des expéditions dans une usine agricole pendant 23 ans, jusqu'à ce qu'il découvre l'hypnothérapie.
Fallait Oser.
J'étais un peu du style de personne qui avait toujours mal quelque part. Et en fait, à force de voir des thérapies comme ça, des thérapies alternatives, autres que la médecine traditionnelle, ça passait, mais au bout de 15 jours, 3 semaines, ça avait tendance à revenir. Et là, je me suis dit, tiens, ça serait bien que j'essaie de creuser un petit peu. Et en creusant, cherchant comme ça sur Internet, j'ai vu hypnose. Et là, j'ai même pas cherché à aller voir un hypnothérapeute. Et je me suis pris en main, je me suis dit, hop, je m'attaque directement à la formation.
Cette thérapie brève permet de soigner les mots en agissant sur l'inconscient. Sylvain se forme d'abord en parallèle de son travail. Il s'exerce sur des amis et sur sa famille. Et ça marche.
Et puis, il y a un an, il décide de se lancer dans le métier. Alors, le plus dur au début a été d'apprendre à jongler entre les statuts, à gérer une entreprise, évidemment. Et puis, aujourd'hui, il en vit. Il aide ses patients à contrôler leurs émotions, soigner des addictions. Et il accompagne également les enfants lorsqu'ils ont des difficultés à surmonter. Et il est très satisfait de son nouveau métier.
La plus grande satisfaction dans ce métier-là, en fait, c'est la liberté. Je peux gérer un petit peu mes horaires comme je veux. S'il y a des matinées ou des après-midi où j'ai autre chose de prévu, où je veux m'accorder du temps, bah, c'est vrai que j'ai cette possibilité. Le fait de travailler pour soi aussi, d'être à son compte, c'est vrai que ça, c'est quand même un très grand, très gros avantage. C'est vraiment plaisant et je pense que je vais creuser encore un petit peu parce qu'il y a de la PNL aussi. Et je pense que ça va être complémentaire à tout ça. Ouais.
Aujourd'hui, Sylvain compte 500 heures de formation au compteur et il exerce en cabinet à Loudéac.
Et puis si vous aussi, vous avez changé de métier, hein, vous voulez nous faire partager votre expérience, bon maintenant vous connaissez le chemin, c'est sur Twitter avec le hashtag Europe 1 ou un petit mail à la rédaction.
Il est 5h11, Mathieu Noël.
Vous écoutez Debout les copains, 2 heures d'infos tartinées de fantaisie en compagnie des deux plus grandes fantaisistes de la bande FM, Eva Rock et Céline Dacosta.
Kissou, kissou.
À suivre, le meilleur de la culture sur un plateau d'argent servi en chambre. C'est vendredi, les bons tuyaux, l'actu du Festival de Cannes, le nouveau Almodovar, la ressortie en salle de Fight Club. Le programme est palpitant. Et puis... palpitant toujours, Marcel Ichouari.
J'adorerais le voir en concert.
Mais peut-être un jour, Eva, peut-être un jour. En attendant, il nous parle ce matin du cœur des femmes, qui diffère beaucoup de celui des hommes. Il est notamment plus difficile de diagnostiquer un infarctus chez la femme que chez l'homme. Marcel a lu pour nous un livre qui incite les femmes à prendre soin de leur cœur. Pour ma part, à mon modeste niveau, je prends soin de vos oreilles. Voici Fragile, soprano sur Europe 1. Magnifique petite guitare de fin pour Fragile, c'était soprano sur Europe 1.
Il est 5h15. Voici l'essentiel de l'actualité avec vous, Mathieu Noël.
Frédéric Péchier, l'anesthésiste de Besançon, de nouveau mis en examen pour 17 suspicions supplémentaires d'empoisonnement de patients. Elle s'ajoute aux 7 autres pour lesquelles il était déjà poursuivi. Il a été laissé libre, placé sous contrôle judiciaire. Édouard Philippe lâche du lest sur l'un de ses grands combats, l'abaissement de la vitesse à 80 km/h sur le réseau routier secondaire. Après des mois de grogne, le Premier ministre a annoncé hier que le choix de la limitation serait bientôt laissé aux conseils départementaux. Enfin, 17 novembre, 17 mai, ça fait 6 mois jour pour jour que le mouvement des Gilets jaunes a débuté, mobilisation en baisse, environ 19 000 personnes samedi dernier en France. Mais ils appellent de nouveau à manifester demain, 27e samedi, à Paris en province. Un appel national a été lancé à Reims.
Europe 1.
Voici pour les principaux titres de ce 17 mai. Attention Céline, il vous fait gagner de l'argent, il est infaillible, il sait tout, il voit tout, il est entouré de bourrins.
C'est Macron ?
Non, presque Céline, c'est Thierry Léger pour les pronostics hippiques. Bonjour Thierry.
Bonjour Mathieu, il y aura des courses ce soir en nocturne à Vincennes et mon pari gagnant sera le 310 Fidèle Royal. Force est de reconnaître que sa dernière fin de course, le 20 avril à Enghien, n'est vraiment pas passée inaperçue. Dans tous les mauvais coups depuis l'entrée de la ligne droite, il a crevé mes jumelles en venant terminer en roue libre en tête débattue. Cette sortie aura eu comme effet bénéfique de l'amener au top en vue de cet objectif qu'il ne devrait pas laisser échapper. Alors notez bien, pour ce soir en nocturne à Vincennes, réunion 1 dans la 3e course, le numéro 10, Fidèle Royal.
Merci Thierry Léger.
Il est 5h16.
Europe 1, 5h, 7h, Mathieu Noël.
Vous écoutez Debout les copains et ce matin, désolé, la séquence d'habitude si joviale où nous nous retrouvons autour d'un bol de choc à pic risque d'être moins rieuse que coutume. Puisqu'en effet, entre Eva Rock et Céline Dacosta, comme entre Gabin et Simone Signoret dans Le Chat, rien ne va plus. Découvrez Eva et Céline dans La Chatte. Deux femmes vivant sous le même toit et qui ne se supportent plus. Les gestes les plus anodins de la vie à deux deviennent source de conflits. Quand par exemple Eva ose se pencher au-dessus de Céline à table pour attraper la salière.
Bah, il suffit de demander.
Tout chez Eva exaspère désormais Céline. Son parfum, brise d'aïoli.
C'est fort, hein ? La vache !
Et de l'agacement, on passe facilement à la méchanceté gratuite. Chaque fois qu'Eva passe dans une pièce, Céline souffle.
Non, mais c'est un hommage.
Oui, Céline Dacosta, le cerveau probablement éprouvé par 2 mois et demi de régime sans gluten, est en train de devenir un monstre. Moquant Eva à chaque fois qu'elle bute sur un mot.
Alain et Marie-Joël. Marie-Joël, pardon.
Ah bah bravo, bien joué.
Le harcèlement moral n'est pas loin. Eva ne peut même plus chanter sous la douche.
Qu'est-ce qui chante faux comme ça ?
De toute façon, elle n'a plus le cœur à chanter. La pauvre, elle se sent presque menacée. C'est vrai que lorsqu'elle nettoie le couteau à pain, Céline a parfois de drôles d'idées. Comme elle le dit elle-même dans ses moments de lucidité.
Ça va se terminer chez Ondelat.
Mon Dieu, on passe au pressing.
Même pas vrai.
Notre revue de presse.
Tout ça, c'est faux. Ouais.
C'est important de le souligner. Parce que je pense qu'il doit y avoir une fraction importante de nos auditeurs qui, chaque matin, se disent non, c'est la vérité qui est décrite dans cette séquence. Notre revue de presse en mode zapping. À la une de vos quotidiens ce matin, les amis, les routes départementales s'imposent. On en parlait dans le rappel des titres. Le Parisien écrit sobrement « Ce qui va changer, la Charente libre titre, la Charente pressée de repasser à 90 km/h. » Le Midi Libre et cette question « À qui les 21 millions ?» C'est le montant remporté par un gagnant du loto mercredi qui ne s'est pas fait connaître, le gagnant du loto. Mais vous, maîtruculant Loufia, qu'avez-vous trouvé dans la presse ce matin, Eva Rock ?
C'est pas moi qui joue au loto,
moi non
dommage.
Plus.
Ouais. Moi non plus.
Figurez-vous qu'il n'y a pas que Notre-Dame dans la vie. Dans les pages mécénat des Échos, un appel est lancé aux internautes du monde entier pour sauver un autre patrimoine, 130 instruments de musique. Ce sont des instruments dont certains sont millénaires, qui sont conservés au musée du Quai Branly, mais qui sont aujourd'hui en péril. Or, dans un an, en juin 2020, l'institution promet un concert-événement avec les instruments rénovés en présence des donateurs.
Mais s'ils sont au musée du Quai Branly, ils sont entretenus, non ?
Eh bien non, il y en a certains qui ont encore besoin d'être rénovés. Exactement. Et il va falloir trouver de l'argent pour ça et beaucoup travailler. Dans un premier temps, 40 000 euros sont nécessaires pour la rénovation de 40 instruments. Et puis, il faut 5 restaurateurs à temps plein pendant un an qui vont devoir être mobilisées. Donc, coût total de l'opération, 150 000 euros. Donc, on est loin des sommes gigantesques qu'il faut pour Notre-Dame. Hein. Mais en attendant,
même 150 000 euros, si vous pouvez les sortir, 150 000 euros.
Voilà, c'est ça. Opération baptisée Montelson, qui permettra, si elle est menée à bien, donc, de sauver des morceaux d'histoire. Tambour, vielle, timbales, une clarinette du Mali qui est jouée par les garçons après la récolte du mil, trompe utilisée au Burkina Faso qui est réquisitionnée en cas de guerre, ou encore ce tambour d'Afghanistan réservé uniquement au mariage. Et dans cet article, vous allez découvrir aussi que les matériaux utilisés pour confectionner ces instruments sont parfois, comment vous dire, improbables.
Étonnant.
Sécrétion d'insectes, vessie.
Non.
Oui, oui, vraiment.
Mais vessie, vessie de quoi?
Alors, ça peut être une vessie de porc, par exemple, vous savez, qui est utilisée aussi en cuisine. Des peaux de requin, des tissus d'écorce, voilà. Alors aujourd'hui, comme vous le disiez, Mathieu, dans la tour de verre imaginée par Jean Nouvel pour le musée, il y a déjà 10 000 instruments qui sont stockés sur 6 étages. Des trésors qui bénéficient de l'expertise de 4 restaurateurs permanents, quand le Louvre n'en compte que 2, d'ailleurs. Hein. Alors ça s'explique évidemment par la diversité des objets. Au total, il y a 300 000 objets au musée du Quai Branly. La moitié de la collection provient de dons privés. Et des dons, eh bien, il en faudra encore pour sauver ce patrimoine. Tous les renseignements sont à retrouver sur le site du musée. Tous les petits dons sont même appréciés et attendus, hein, de 20 euros à 500 euros.
Et je dis, allez au musée du Quai Branly. On n'y pense pas toujours parce qu'il est récent, ce musée. On n'a pas forcément le réflexe. C'est un magnifique musée.
Y compris avec les petits.
Tout à fait, c'est sublime. Et c'est très différent. C'est une ambiance très différente des autres musées.
Et j'espère vraiment qu'ils vont arriver à rénover ces instruments de musique pour ce concert exceptionnel qui est attendu.
Déjà, vous m'avez dit que vous allez mettre 60 000, donc ça va aider. Céline.
Alors ça y est, c'est le week-end hein, et le temps sera plutôt pluvieux, ça on l'a compris.
Mais pour ça, j'ai bien compris Céline, si vous nous dire ça en boucle toute la matinée.
Surtout sur la moitié sud. Alors si vous habitez à Nice, pas loin, ou vous comptez vous y rendre ces prochains jours, j'ai la sortie idéale puisque ça se passe sous une verrière. Et pas n'importe laquelle, une verrière largement centenaire, haute de 18 mètres. Elle abritait la gare sud de Nice qui a été érigée en 1892. Elle a fermé cette gare en 1991. Il y a eu 2 projets de démolition pour des opérations immobilières d'une part, et pour y installer l'hôtel de ville. Christian Estrosi, qui n'était pas maire à l'époque, est intervenu auprès du ministre de la Culture pour éviter ça, et il a bien fait, puisque cet espace incroyable, tenez, je vous passe le petit article pour vous ayez une image.
Merci.
Cet espace incroyable vient d'être totalement réhabilité pour devenir une halle gourmande de 1500 mètres carrés sur deux niveaux.
Ça, c'est très gourmand, oui.
Oui, à l'intérieur, 28 points de restauration, mais aussi des boutiques, un espace vintage, des activités culturelles, c'est ce que promet la mairie. Et c'est demain que ça va être inauguré, cette halle gourmande de la gare du Sud. Elle sera ouverte du mardi au dimanche, il n'y aura pas de dancing comme prévu. J'ai bien aimé le terme dancing. C'est moderne.
Très moderne, oui.
Voilà. Ou discothèque pour les autres. C'était prévu d'en faire une, mais finalement, ça n'a pas été retenu pour la bonne entente avec le voisinage.
Oui, c'est mieux.
Pour la petite histoire, cette verrière incroyable est inspirée de Gustave Eiffel. Hein, si vous avez des images, je vous encourage à les regarder sur Internet. La structure en fonte est composée en partie de morceaux du pavillon de Russie et d'Autriche-Hongrie de l'exposition universelle de 1889. Elle a été démontée pour être restaurée. Et dans le même esprit de réhabilitation, le bâtiment voyageur qui jouxte la halle et qui porte encore sur sa façade les impacts de balles de la Seconde Guerre mondiale est devenu une médiathèque. Alors c'est à lire dans Aujourd'hui en France, et puisqu'on parle de Tour Eiffel, vous savez qu'elle fête ses 130 ans.
Tout à fait, on va en parler tout à l'heure avec Fabrice Dalméda.
Et bien vous pouvez encore profiter du spectacle Son et Lumière gratuit aujourd'hui entre 22h et minuit, c'est le dernier jour aujourd'hui.
Parfait, merci beaucoup Céline. Jérôme Lacroix.
Oui, pour mettre à l'honneur ce matin, enfin, comme le fait notamment le Parisien, un champion français méconnu et pourtant ce champion, il s'appelle Alfred Nakache, mort en 1983 au terme d'une vie de sport, de gloire, mais aussi ô combien de souffrance. Et on vous en parle ce matin parce que 36 ans après sa mort, il va devenir ce week-end le 9e Français de l'histoire à intégrer le Panthéon de la natation mondiale en Floride. Alfred Nakache, surnommé le nageur d'Auschwitz, juif algérien, né en 1915, 10 frères et sœurs. Adolescent, il découvre les joies de la performance par la natation après avoir vécu une certaine phobie de l'eau. Champion d'Afrique du Nord, il émigre en France où il finit deuxième du championnat national à la fin des années 30 et il devient un brillant prof de sport dans un lycée parisien. Mais vient la France de Vichy, 1940. Il lui est interdit de travailler, mais aussi il est déchu de sa nationalité par les nazis. Alors, il se réfugie à Toulouse avec sa famille. Et puis 1943, le début de l'horreur. Il est arrêté, il est déporté à Auschwitz avec Paul, sa femme et leur fille de 2 ans. Ils sont séparés. Les SS, c'est Joliet. Ils connaissent Alfred Nakache, le champion. Alors, il subit les humiliations de ses tortionnaires. On l'envoie repêcher un poignard au fin fond d'un bassin de rétention d'eau et on exige qu'il le récupère avec les dents. En signe de résistance, il organise des séances de baignade collective dans les réservoirs à incendie du camp. Puis vient ensuite la marche de la mort, transfert à pied d'Auschwitz à Buchenwald face à l'avancée des troupes soviétiques. Finalement, en 1945, il est libéré, il survit au camp de la mort, mais il est seul, sa femme et sa petite-fille ont été gazés dès leur arrivée dans les camps de la mort. Il retourne à Toulouse et à la natation un an à peine après avoir survécu au camp. Il est sacré champion de France en 1946, puis il participe aux JO de Londres en 1948 sans décrocher de médaille. Voilà l'histoire d'Alfred Nakache. Et vous connaissez peut-être maintenant l'origine du nom de la piscine de votre quartier parce que ce nom a été donné à de nombreux bassins en France, dont à Toulouse.
Moi, j'en connais une de piscine.
Baptisé ainsi dès 1944 à Toulouse parce qu'on le croyait mort dans les camps nazis, mais il a bien survécu.
Mais c'était une magnifique histoire, Jérôme. C'était un magnifique pressing, les amis, vous le savez.
Ouais.
Je suis fier de vous.
Ah, c'est
ferez-vous aussi bien lundi ?
Oui, on fera mieux encore.
Bah ça, ce n'est pas sûr. Ce n'est pas sûr, Eva. Ce n'est pas sûr parce qu'Eva m'a fait une petite confidence ce matin en arrivant.
Non.
Elle, d'habitude, si guirette, si joviale. Elle m'a dit « Ouh là 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 là, elle était encore loin là. Maintenant, je compte les jours jusqu'au vendredi. »
Non, j'ai pas dit ça.
Les jours. Et moi, j'étais choqué.
J'ai
prends tellement de plaisir à vous retrouver chaque matin, chers auditeurs. Et Eva, je ne comprends pas ce qui vous arrive.
Mais j'ai pas tout à fait dit ça.
Qu'avez-vous dit ?
J'ai dit « Plus ça avance dans la saison, plus c'est difficile quand le vendredi arrive. »
D'accord.
Voilà.
Mais nos auditeurs auront compris ce qu'ils voudront.
Oui.
Merci beaucoup à tous. Le pressing referme ses portes et réouverture lundi. Donc allez, on essaye de mettre nos vieilles rancunes de côté. Eva, un mot d'apaisement à l'attention de Céline.
Connard.
Merci.
Europe 1.
C'est apaisant ça. Et il est 5h25, Mathieu Noël, le mot ici.
On s'aime tous. Debout les copains, continuez avec la météo, le journal d'Hélène Zélani. Extravagant réveil à l'écoute d'Europe 1.
Il est 5h27, Mathieu Noël.
On fait un point sur la météo de ce 17 mai. Comme prévu, Céline, le temps se dégrade.
Oui, et pile pour le week-end, hein. C'est pas mal ça, dis donc.
Pile poil.
C'est le retour des nuages, c'est vrai aujourd'hui un petit peu partout. Alors il va rester quelques éclaircies sur la moitié nord ce matin, mais dans le sud-ouest, c'est déjà bien pluvieux, avec des averses localement soutenues, de la neige sur l'ouest des Pyrénées. Les pluies vont gagner toute la moitié sud et la Corse dans le courant de la matinée. Les orages feront également leur apparition et la neige aussi des 2000 mètres sur les Alpes. Les orages, c'est pour cet après-midi. Pour la moitié nord, après les quelques éclaircies de ce matin, le ciel va se couvrir davantage avec des averses possibles, surtout le long des côtes de la Manche. Et puis on pourrait encore avoir quelques rayons de soleil tout de même au milieu de tout ça.
Et les températures baissent, surtout dans le sud-ouest.
Oui, on va perdre jusqu'à 10 degrés par endroit. Il faisait 24 degrés à Toulouse hier, il en fera 14 cet après-midi. 12 degrés même attendu à Tarbes. Pour les autres, ça reste quand même assez doux. 16 à 20 degrés en moyenne, on attend même 21 degrés à Paris. Et puis ce matin, on se rapproche des normales avec encore un petit peu de fraîcheur dans le nord-est, hein, puisqu'il fait 4 degrés à Mulhouse, mais il en fait 10 à Brest, 11 à Paris, 12 degrés à Lyon, 13 à Agen et 15 à Nice.
Merci Céline. Eva Rock.
C'est l'anniversaire de Tony Parker aujourd'hui, à qui on souhaite un très très bon anniversaire. À cette occasion, quel est votre sportif préféré ? C'est la question qu'on vous pose depuis ce matin, 5h sur Twitter.
Jean-Pierre Papin, moi
personnellement. C'est vrai ? Ah, je vois pas trop qui c'est en fait. Il est quoi, tennisman ?
JPP, reviens.
Allez, Carlisa nous dit à jamais, Bichante, Lisa Razou, Bordeaux était son équipe favorite à Carlisa, plus le Mondial 98 évidemment, et puis maintenant, elle adore ses commentaires avec Grégoire Margoton sur TF1. Et puis Daki nous dit Roger Federer, classe, sobre, intelligent.
Suisse,
il
quoi,
allie la tête et les gens. Roger Federer est plébiscité par nos auditeurs. Vous continuez à réagir sur Twitter avec l'hashtag Europe 1.
Merci beaucoup Eva.
Europe 1, 5h, 7h. Mathieu Noël.
Vous écoutez Debout les copains, le 5-7 qui fait rimer rigueur et bonne humeur. Ce qui n'est pas très dur vu que les deux finissent en heure.
Quelle bonne vanne.
À suivre, un suppo et on lit notre séquence bibliothérapie. Le docteur Ichou se penche à notre chevet avec un livre santé. Aujourd'hui, Le cœur des femmes. Un ouvrage qui nous apprend que contrairement aux idées reçues, les femmes sont autant sujettes aux problèmes cardiaques que les hommes et elles sont souvent moins bien diagnostiquées. La solution, Céline ?
Bah, les pompiers de Paris, non, quand tu les vois avec leurs t-shirts courir là sur les bords de
scène. Non, la solution c'est écouter la chronique du docteur Ichou.
Et les pompiers de Paris, Ichou. Bienvenue sur Europe 1, il est 5h30. 5h-7h, Mathieu Noël.
Toute l'actu de ce 17 mai, bonjour Hélène Zelani.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous.
À la une ce matin Hélène.
L'anesthésiste de Besançon reste en liberté. Le procureur avait demandé qu'il soit placé en détention provisoire après sa nouvelle mise en examen pour 17 cas d'empoisonnement de patients. Le mouvement des Gilets jaunes a commencé il y a tout juste 6 mois et les habitudes des consommateurs ont changé le samedi dans les centres-villes. Nous irons à Rouen. Et puis un ancien Premier ministre descend dans l'arène pour soutenir la liste socialiste aux européennes. Bernard Cazeneuve était en meeting hier avec Raphaël Glucksmann.
Europe 1.
Le mouvement des Gilets jaunes a donc commencé il y a tout juste 6 mois, le 17 novembre dernier. 26 samedis de manifestations de centres-villes bloqués avec des conséquences importantes pour les commerçants. Les habitudes des consommateurs ont-elles changé? Réponse à Rouen avec Jean-Jacques Herry.
Depuis 4 semaines à Rouen, le samedi, difficile de croiser un gilet jaune sous les maisons à colombages. D'abord parce que le mouvement s'est essoufflé, ensuite parce que la préfète a décidé d'interdire l'hypercentre à la manifestation. Résultat, ça change tout pour les commerçants. Dans sa chocolaterie, Béatrice commence à voir revenir les gourmands, même si ça reste timide.
Les gens qui habitent dans les alentours de Rouen ont du mal à revenir le samedi. Ils ont encore en tête l'idée que le samedi, à Rouen, c'est pas possible d'y entrer. Les gens ont pris l'habitude de ne plus venir le samedi. Maintenant, il faut qu'ils reprennent leurs habitudes.
Kevin est chausseur, il se dit lui aussi soulagé, même si ça ne suffira pas à rattraper nos pertes, lâche-t-il.
Les touristes commencent à se montrer, on a les clients habituels qui reviennent bien, donc il faut que ça dure.
Malgré l'absence d'affrontements et de gaz lacrymogène, la clientèle familiale se fait encore désirer. L'argent du fonds de soutien dont va bénéficier la ville va donc être utilisé en priorité pour attirer les familles. Bruno Berteil, adjoint au commerce.
Une partie de l'argent va être utilisée par la ville pour offrir du temps de stationnement gratuit aux commerçants, des bons pour donner du stationnement gratuit à leurs clients. Puis de l'argent qui va partir aussi sur des animations notamment. Le signal que l'on veut donner, c'est revenez en ville.
Certains restaurateurs vont même plus loin. Le samedi, ils proposent maintenant aux parents un menu enfant gratuit.
Jean-Jacques Herry à Rouen pour Europe 1.
Ça a été l'un des détonateurs de la crise des Gilets jaunes, les 80 km/h sur les routes secondaires.
Oui, Édouard Philippe entame une marche arrière. Le Premier ministre annonce que le gouvernement est prêt à soutenir l'amendement des députés En Marche qui prévoit d'autoriser les présidents de conseils départementaux à relever la vitesse maximale sur certains tronçons, quitte à en assumer les conséquences en matière de sécurité routière. Selon les sondages de ces derniers mois, près de 8 Français sur 10 sont favorables à l'abandon ou au moins à l'assouplissement de la mesure. Et puis on vient de l'apprendre, l'anesthésiste de Besançon est laissé libre sous contrôle judiciaire. Le procureur avait demandé son placement en détention provisoire. Le docteur Frédéric Péchier a été mis en examen pour 17 nouveaux cas d'empoisonnement de patients, dont 7 décès. Au total, il est soupçonné de 24 cas, ce qui pourrait lui valoir la perpétuité. Il se dit victime d'un complot.
Europe 1, il est 5h32.
Les figures de la gauche appelées à la rescousse pour la campagne des européennes.
Oui, à 10 jours du scrutin, la liste socialiste plafonne autour de 5% des intentions de vote. Après Christiane Taubira à Rouen, hier soir, c'est Bernard Cazeneuve qui est venu soutenir la tête de liste Raphaël Glucksmann à Lyon. L'ex-premier ministre est donc sorti de sa réserve pour tenter de relancer la campagne du PS. Jean-Luc Boujon était dans la salle pour Europe 1.
Pour Bernard Cazeneuve, c'était presque hier une entrée de rockstar.
Je vous demande un triomphe pour monsieur Bernard Cazeneuve.
À l'évidence, l'ancien ministre de l'Intérieur est heureux d'être là. Il redit sa fidélité aux valeurs de gauche et n'hésite pas à cogner sur le pouvoir actuel et sur Emmanuel Macron.
Est-ce progressiste que de prendre près de 6 milliards d'euros à des retraités modestes par une réforme de la CSG et d'en donner autant aux plus grandes fortunes de notre pays? Est-ce juste?
Puis il rend un hommage appuyé à Raphaël Glucksmann, à son courage de mener la bataille alors que les sondages sont en berne, et il promet même des surprises pour le 26 mai.
Je suis venu vous promettre des victoires. Je suis venu vous promettre d'autres printemps. Ne vous laissez pas impressionner par l'arrogance et le mépris. Soyez fiers de vous-même.
Un discours qui visiblement a fait beaucoup de bien aux militants.
C'est très bien qu'ils soient venus ici, de façon à refonder la gauche, qui m'a ébranlé émotivement.
Ça relance aussi la campagne, qui dégage vraiment ce sentiment de sérénité qui nous laisse espérer que demain ça va bien se passer.
Des militants regonflés donc, qui pour certains aimeraient bien qu'après Taubira et Cazeneuve, ce soit maintenant François Hollande qui s'invite durant la dernière semaine de la campagne. Lyon, Jean-Luc Boujon, Europe 1.
Quant à François de Rugy, il a eu bien du mal à prendre la parole hier soir à Gaillac dans le Tarn. Le ministre de la Transition écologique était venu rencontrer des militants de La République En Marche, mais pendant une heure, une centaine de gilets jaunes ont entonné des chants hostiles au gouvernement et au président.
De la prison ferme requise contre le couple Balkany.
Le parquet national financier qui a dénoncé l'acharnement à frauder a requis 4 ans contre le maire de Levallois avec incarcération immédiate et 2 ans ferme contre son épouse Isabelle pour fraude fiscale. Le PNF demande également 10 ans
d'inéligibilité pour le couple, le maximum. Le volet blanchiment et corruption sera abordé à partir de lundi. Et puis l'ex-star du sprint, Usain Bolt, ne pourra pas donner son nom aux trottinettes en libre service qu'il vient de lancer à Paris. Décision du tribunal de grande instance, la marque Bolt est déjà utilisée par un concurrent. L'athlète jamaïcain va baptiser ses trottinettes B, tout court, mais il a bien l'intention de contester la décision en justice. Aujourd'hui, on estime la flotte de trottinettes à 15 000 dans la capitale. Elle pourrait atteindre 40 000 d'ici la fin de l'année.
Merci beaucoup, c'était le journal d'Hélène Zélénie. Et d'après vous, Céline, sachant qu'Hélène ne fait jamais de régime, en pratiquant combien de sports différents arrive-t-elle à maintenir cette ligne sculpturale?
72. Alors le tir à la corde, le squash, le ski nautique, le vol en souffleur, la pétanque.
Oui, on a compris. Mais Céline, non, c'était une image, une astuce. Mais bon, Jérôme Lacroix, on passe au journal des sports.
La pétanque.
La pétanque fait beaucoup maigrir, Hélène. À la une, le retour du tigre.
Oui, Tiger Woods, l'américain star mondial du golf, il est de retour à la compétition. Il y a un mois, il signait un détonnant succès de premier plan. Après des années de disette, il remportait le Masters d'Augusta en Géorgie, premier des quatre tournois du Grand Chelem de la saison. Et depuis hier, il est en lice sur le deuxième Grand Chelem de l'année, nommé USPGA, ça se passe à New York, et premier tour moyen cette nuit de Woods, déjà distancé par son compatriote Brooks Koepka, le tenant du titre. Woods, 43 ans, il en a gagné 15 dans sa carrière de ses tournois majeurs. Il figure à seulement 3 victoires des 18, le record absolu détenu par un autre américain, Jack Nicklaus. Alors Woods peut-il rattraper, voire dépasser Nicklaus? Eh bien oui, répond ce matin Christophe Muniesa, c'est le directeur technique du golf français.
Je pense qu'avec le jeu qu'il déploie, il peut aller chercher ses victoires en Grand Chelem, et c'est vrai que les planètes s'alignent pour Woods, parce que on parlait de l'USPGA, parcours sur lequel il s'est déjà imposé. Sur l'US Open, retour à Pebble Beach en Californie, ça sera en juin. Là aussi, c'est un des parcours mythiques du golf américain sur lequel Woods s'est imposé à plusieurs reprises. Donc, il y a un enchaînement de tournois qui lui est extrêmement favorable.
Et notez que cette nuit, donc à ce deuxième tournoi du Grand Chelem, l'USPGA, l'un des joueurs les plus en vue a été le Français Michael Lorenzo Vera, le Basque de 34 ans, et sixième après ce premier tour.
Du foot, Jérôme, et la colère du foot français ne retombe pas.
Au lendemain d'une réunion pour s'opposer à la volonté des grands clubs européens de créer une Ligue des champions réservée aux plus riches. Si l'UEFA applique la réforme prévue pour 2024, il faut s'attendre à un profond conflit, en tout cas avec la France. C'est ce que prédit Bernard Caillazo, président de Première Ligue qui regroupe les principaux clubs de Ligue 1.
Les clubs partout en Europe se battent pourquoi ? Pour leur survie. Quand vous mettez en jeu la vie d'un individu, ils résistent, ils descendent dans la rue et ils se révoltent. J'espère qu'on n'en viendra pas là et que la raison l'emportera. Je ne sais pas ce qui se passera dans les détails, mais il y aura des réactions extrêmement fortes et on irait vers une sorte, je dirais, de scission qui... Personne ne serait gagnant d'un combat qui serait un combat mortel.
Des propos recueillis par Jean-François Pérez.
On termine, Jérôme, avec la personnalité du jour.
J'ai choisi Kristina Mladenovic, dernière représentante de la France au tournoi de tennis de Rome. Elle affronte aujourd'hui la grecque Sakkari, 39e mondiale, pour une place en demi-finale. Mladenovic qui s'est hissée jusqu'en quart en éliminant successivement hier les 15e et 9e joueuses mondiales. Également aujourd'hui à Rome, Djokovic face à Del Potro, Nadal face à Verdasco et Federer contre le grec Tsitsipas, le Suisse Federer. Passé juste hier, il a dû sauver deux balles de match face au Croate Koric.
Merci, c'était le journal des sports de Jérôme Lacroix. Ça va Jérôme, le week-end s'annonce bien ?
Pour aller danser le jerk.
Ah oui, ça fait envie. Beau week-end en perspective, mon GG.
Il est 5h38, Mathieu Noël.
Vous écoutez Debout les copains, 2h au carrefour, hautement accidentogène de l'info et de l'humour. Mais comme dirait Céline...
Le karting, faut que ça aille vite, sinon c'est pas marrant.
À suivre, votre point santé consacré aujourd'hui au cœur des femmes. Un cœur aussi sensible aux infarctus que celui des hommes, sauf qu'on le sait moins, qu'on y pense moins, ce qui rend les maladies cardiaques encore plus dangereuses pour les femmes. On pourrait vous dire que le docteur Ichou arrive, mais comme c'est très important ce matin, on va même vous le chanter. Céline.
Et voici Marcel Ichou. Marcel, Marcel, oui c'est Marcel Ichou. Il est 5h39, Mathieu Noël.
Et c'est l'heure de faire un point avec vous Céline sur la météo.
Profitez d'un temps toujours clément avec Rénoval, véranda et abri de piscine. Rénoval vous présente la météo.
Ouh, vous avez préparé un joli lancement Céline.
Oui, c'est vrai.
Le soleil a pris son week-end.
Et il s'est barré. Oui, alors surtout sur la moitié sud, hein, parce que là, on ne va pas en avoir du tout de soleil. Il va rester quand même quelques éclaircies au milieu des averses pour la moitié nord samedi et pour le nord-ouest dimanche. Aujourd'hui aussi, d'ailleurs, on en aura quelques-uns rayons de soleil, mais c'est surtout les nuages qui vont l'emporter avec de la pluie pour la moitié sud. Ça pleut déjà, il pleut déjà pas mal dans le sud-ouest en ce moment. Des orages même cet après-midi, de la neige sur les reliefs Pyrénées et Alpes. Et les températures, elles sont en baisse, surtout dans le sud-ouest. On va perdre jusqu'à 10 degrés par endroit. Pour les autres, la moyenne ira encore de 15 à 20 degrés du nord au sud.
Merci Céline. Eva Rock, c'est l'anniversaire de Tony Parker aujourd'hui.
Exactement. Alors à cette occasion, on vous demande quel est votre sportif préféré de tous les temps. Je vois pas qui c'est. Définitivement, je vais aller chercher sur Internet. Eh bien, vous êtes très nombreux à réagir sur Twitter avec le hashtag Europe 1, comme Caranoia qui nous dit André Agassi qui m'a permis de trouver de bonnes excuses pour éviter les révisions du bac. Eh oui, pendant Roland Garros. Laurent nous dit Usain Bolt, évidemment. Et puis Carole nous cite Alain Prost, Roger Federer et Morgan Parra, vous savez, le rugbyman.
Roger Federer revient dans tous.
Tous les messages.
Tous les messages.
Quasiment. Voilà. Vous nous continuez à réagir sur Twitter avec le hashtag Europe 1.
Merci à tous.
Europe 1. 5h, 7h, Mathieu Noël.
Un suppo et on lit, c'est notre chronique bibliothérapie du vendredi avec vous, Marcel Ichoux, bonjour.
Bonjour Mathieu.
Vous êtes venu ce matin, docteur, avec un livre qui s'intitule « Mon combat pour le cœur des femmes », signé du professeur Claire Mounier-Veillé aux éditions Marabout. Ce livre a le titre d'un roman d'amour, mais c'est très médical tout ça. Hein.
L'auteur de ce livre est professeur de cardiologie et nous interpelle. Quand je dis « nous interpelle », elle s'adresse aussi bien au grand public qu'aux professionnels. Pourquoi ? Parce que la spécificité de l'état cardiaque des femme est telle qu'elle est très souvent méconnue et les expose à un surcroît de risque par rapport aux hommes. Dans l'imaginaire collectif, les pathologies cardiovasculaires sont l'apanage des hommes. Ah. Mais les chiffres parlent et vont à l'encontre de ce préjugé. À l'échelle européenne, 49% des femmes et 40% des hommes meurent de pathologies cardiovasculaires. En France, sur 147 000 décès liés aux maladies cardiovasculaire, 54% touchent des femmes. Mmh. Et paradoxe, les femmes consultent plus souvent que les hommes, du fait de leur contraception, de leur grossesse, de leur ménopause, et très souvent pour leur famille. Mais ce paradoxe se double d'un autre qui ne tombe pas sous le sens. Les femmes ont une espérance de vie plus grande, mais avec une existence en moins bonne santé. En conclusion, les femmes ne sont pas moins exposées aux maladies cardiaques que les hommes. Il faut qu'elles en prennent conscience et que les médecins doivent eux aussi tenir compte de ces spécificités.
Mon combat pour le cœur des femmes par le professeur Claire Mounier, veillé aux éditions Marabout. Merci Marcel Ichoux.
Europe 1.
Il est 5h42, Mathieu Noël.
Vous écoutez Debout les copains, le 5-7 qui réconcilie l'info et l'humour, les fans de Brassens et de la compagnie créole. À suivre, que se passe-t-il sur YouTube ? Que se passe-t-il au Festival de Cannes ? Pourquoi, à l'occasion des élections européennes, des partis politiques ont eu l'idée assez cosmique de se mettre aux jeux vidéo ? Les réponses vous attendent bien au chaud dans Vendredi les bons tuyaux. Vous êtes prête, Céline ?
Oh, j'adore la farine de châtaigne.
Elle n'est pas prête. Laissons-lui le temps de se préparer. En écoutant un peu de musique, voici LSD. Thundercloud sur Europe. Wow. Thundercloud. LSD sur Europe.
Europe 1.
Il est 5h45, Mathieu Noël.
À suivre, si vous en avez marre des questions qu'ont vos collègues à la machine à café.
T'as déjà conduit un karting ?
T'as déjà vu un éléphant accoucher ?
Trouvez d'autres thèmes de conversation plus enrichissants, comme par exemple « Que vaut le dernier Almodovar ?» ou « Était-il malin ou totalement crétin de la part des partis politiques de créer des jeux vidéo à l'occasion des élections européennes ?»
C'est crétin.
Mais non, mais patience ! La réponse dans Vendredi les bons tuyaux, votre shot culturel quotidien.
Il est 5h47, voici l'essentiel de l'actualité, Mathieu Noël.
Édouard Philippe Lage du Lest sur un de ses grands combats, l'abaissement de la vitesse à 80 km/h sur le réseau routier secondaire. Après des mois de grogne, le Premier ministre a annoncé hier que le choix de la limitation serait bientôt laissé aux conseils départementaux. Implacable réquisitoire du parquet national financier hier au procès des époux Belkany pour le volet fraude fiscale. 4 ans de prison ferme requis contre Patrick Belkany, 2 ans ferme contre Isabelle Belkany et contre tous les deux 10 ans d'inéligibilité. Réquisitoire beaucoup trop sévère pour l'avocat de la défense Éric Dupond-Moretti. Les époux Belkany seront fixés le 13 septembre. Enfin, Boeing assure que ses 737 MAX seront prêts à voler à nouveau. L'appareil mis en cause dans deux récentes catastrophes aériennes, l'avionneur américain affirme que la mise à jour du système anti-décrochage est prête. En attente de certification, tous ces avions sont cloués au sol depuis plus de 2 mois.
Europe 1.
Voici pour l'essentiel de l'actu de ce 17 mai. À l'heure d'ouvrir la page pronostic hippique de notre émission, faisons un cadeau à José Covès. José, Eva et Céline vont vous bruiter à la bouche le bruit des sabots durant la course. Et comme on dit, c'est l'intention qui compte. Bonjour José.
Bonjour à tous. Oui, un tiercé servi sur le plateau de Gravel à Vincennes, 20h15 au départ de la troisième course. 14 trotteurs d'un niveau moyen. Mes 5 favoris. En tête, le 8, Fidel Madric. Il arrive sur cet objectif très affûté. Sa place est parmi les 4 premiers. Si le 12, Falco Berry, ne pète pas les plombs, il peut tous les battre. Fabuleux Jet, le 13, est le plus rapide. Il faut en tenir compte. Drivé par le sud qui dort, Jean-Michel Bazir, le 10, Fidel Royal a déjà brillé sur ce parcours de la petite piste. Et le 6, First du Ronceret. Il offre toutes les garanties de sérieux. Impossible de jouer contre. Ensuite, on peut penser 11, Furioso Beach, censé faire. Il doit changer de braquet. Le 7, Futur du Chêne. Un cinquième très présentable. De même d'ailleurs que le 14, Franklin du Mêlé. Bien engagé. Mon ticket pour la troisième course vers 20h15. D'abord le 8, le 12, le 13, le 10 et le 6. Et ensuite le 11, le 7 et le 14.
Moi, j'aime bien le sérieux du First du Ronceret, le 6 là.
Bien vu, bien joué. Vous avez raison. Il se donne toujours à fond, ce qui n'est pas le cas de tous ses adversaires. En progrès constant, First du Ronceret sera présent dans la lutte finale. Et le voir gagner, Mathieu, ne serait pas pour moi une surprise.
C'est la lutte finale. Merci, José.
Il est 5h49.
Europe 1. 5h, 7h. Mathieu Noël.
Eh oui. J'ai pété un plomb.
Ah oui,
et José avait dit la lutte finale. Moi, je rebondis sur chacun des mots. Vous faites autre chose parce que vous regardez des éléphants qui accouchent sur Internet en même temps. Vous n'écoutez pas les gens qui font cette antenne. Mais moi, oui, je rebondis sur leurs mots. Vous écoutez le 5-7 d'Europe 1. Debout les copains continue avec notre séquence culture et nouvelles technologies. Voici vendredi les bons tuyaux. Mathieu Charrier pour le cinéma en duplex de Cannes, Paul Lassène pour les nouvelles technologies au service de notre quotidien et enfin, pour les écrans, l'irremplaçable Eva Rock qui évoquera ce matin un documentaire passionnant visible sur YouTube du nouveau réalisateur français qui monte et qui fait d'ailleurs sensation à Cannes avec son film Les Misérables. Je veux bien sûr parler de Ladjili, un jeune réalisateur bourré de talent que suit de près Céline Dacosta.
C'est quoi, c'est un DJ ?
Non, c'est un mec qui il est super intéressant, ce mec.
Comment tu dis son nom ?
Ladjili.
Oui, alors bon, le temps que vous briefiez Céline, Eva, on va plutôt commencer par Mathieu Charrier. Et exceptionnellement, même si nous sommes vendredi, Festival de Cannes oblige, vous nous parlez, Mathieu, pas de BD, mais de cinéma, car des films présentés à Cannes sortent en salle. Faut-il aller les voir, et notamment le nouveau film de Pedro Almodovar.
Oui, Douleur et Gloire, qui sort effectivement aujourd'hui au cinéma, présenté ce soir au Festival de Cannes, et qui est sans doute l'un des films les plus personnels du réalisateur espagnol. Le personnage principal, joué par Antonio Banderas, est justement lui-même un réalisateur, en souffrance, il n'arrive plus à tourner, il a de gros problèmes de dos, il prend d'ailleurs pas mal de drogue pour faire passer la douleur, et on sent bien qu'il a aussi des problèmes avec ses racines, ses origines. Grâce à des flashbacks, on va revivre son enfance aussi assez heureuse, dans une famille plutôt pauvre, sa maman, jouée par Penélope Cruz, pas mal d'avoir une maman comme Penélope Cruz, tout pour qu'il soit éduqué, l'envoyant notamment chez les religieux. Et donc, à travers le film, il va se sonder lui-même, essayer de comprendre son mal-être et nous avec, entre douleur et gloire, donc d'où le titre, entre pensée, retrouvailles, réflexion. C'est un très beau film qui nous interroge sur nos propres névroses, nos propres craintes. Il vient compléter une sorte de triptyque chez Almodovar, avec La loi du désir et Mauvaise éducation, qui parle d'hommes, réalisateurs, de désir. Franchement, c'est un très beau film qui pourrait être au palmarès la semaine prochaine. Qui sait, ça s'appelle donc Douleur et gloire. C'est signé Pedro Almodovar et ça sort aujourd'hui.
Et puis, si on quitte Cannes quelques instants, Mathieu, vous vouliez aussi nous parler de Fight Club qui ressort en salle.
Eh oui, le chef-d'œuvre de David Fincher en version restaurée. Figurez-vous, vous vous rappelez des règles du Fight Club, la première.
Le chef-d'œuvre aussi, surtout du coach personnel de Brad Pitt pour ce film, qui l'avait amené très très loin dans la perfection physique.
Ouais. Alors, la règle, Eva.
On ne parle pas du Fight Club.
Deuxième règle.
On peut tout faire, non ? C'est ça.
Il est toujours interdit de parler du Fight Club. Et troisième règle, quelqu'un crie stop, quelqu'un s'écroule, on n'en peut plus, le combat est terminé. On s'arrête. Ce film, bon, il a marqué des générations de cinéphiles. Alors d'ailleurs, qu'au moment de sa sortie en 99, ça a été un échec commercial, hein, pas vraiment apprécié par la presse. Il faut dire que c'est très très violent, cette histoire d'homme malheureux dans sa vie qui va monter un club pour se battre et se défouler. On va faire ça de manière schématique. Aujourd'hui, il est considéré comme un film culte. Il faut dire qu'il décrit aussi toute la violence d'une époque et on a un petit peu l'impression qu'il a encore plus d'actualité plus les années passent. Vous voyez, la compatibilité entre certains hommes, le monde dans lequel on vit. Bref, ça ressort en salle, en version restaurée. Allez-y, faites un petit détour à côté de Cannes et voilà, vous allez voir Fight Club.
On le fera, évidemment. Merci beaucoup Mathieu Charrier. Vous nous faites vivre Cannes sur Europe 1 tout au long du festival. Et je me tourne vers vous, Paul Lassène. Ce matin, vous nous parlez politique. À une semaine des élections européennes, l'abstention s'annonce forte, notamment chez les jeunes. Pour tenter d'inciter les jeunes à voter, les partis politiques ont donc décidé de mettre leur tête de liste en avant.
dans des jeux vidéo.
Ouais, et avant de commencer la chronique, Mathieu, je vais vous donner mon téléphone pour que vous puissiez jouer.
C'est-à-dire, ah oui, et okay, donc, toucher l'écran pour jouer. Jusque-là, je comprends, j'y vais.
Et donc les premiers à se lancer, ça a été La République en marche, avec un
c'est
jeu...
C'est Nathalie Loiseau.
Voilà.
Oh, il est génial ce jeu.
Très largement inspiré de Super Mario, puisque le jeu s'appelle Super Jam Bros. La ressemblance est frappante pour les yeux, mais aussi pour les oreilles.
Ah ouais, effectivement, ah ouais.
Ah oui.
Ah, j'ai gagné 100.
Alors, avec dans le rôle du plombier moustachu, la tête de liste, donc Nathalie Loiseau, elle doit affronter des boss populistes à chaque niveau, Marine Le Pen, Donald Trump ou encore Mélenchon Russe, une caricature de Jean-Luc Mélenchon grimé en guêpe géante qui attaque la candidate de la majorité, une initiative qui n'a d'ailleurs pas plu au leader de la France Insoumise.
Aïe.
Mais au-delà de la polémique,
j'espère que ça va pas porter malheur à Nathalie Loiseau.
On lui souhaite pas en tout cas.
Non.
Mais au-delà de cette polémique, le but de ce jeu, c'est de devenir un super député européen en récupérant les 12 étoiles du drapeau, une étoile par niveau.
C'est marrant.
Et alors, et ce ne sont pas les seuls à se lancer là-dedans.
Absolument, le Parti communiste vient de mettre en ligne un jeu vidéo mettant en scène Marie.
Là, on a une petite faucille.
Voilà, Marie-Hélène Bourlard. Alors, ce nom ne vous dit rien,
non.
C'est normal, c'est la numéro 2 sur la liste conduite par Yann Brossa aux européennes. Le jeu s'appelle Écrabouille les patrons. Venez donc combattre dans
c'est
trois
subtil.
Niveaux les fachos, les financiers, puis les lobbyistes, peut-on lire sur la plateforme qui mène au jeu. Et le but de ce jeu, c'est de récolter des urnes virtuelles garnies de bulletins pour permettre à Marie-Hélène Bourlard d'entrer
mais
au Parlement européen.
On en plaisante, mais ouais. C'est une tendance qui se confirme, ces jeux vidéo politiques.
Alors, je ne sais pas si on peut aller jusqu'au terme de tendance, mais ce n'est pas la première fois que des jeux vidéo sont mis au service de la com politique. En 2007, l'équipe de campagne de Jean-Luc Mélenchon avait lancé Fiscal Combat, un jeu vidéo où le leader de la France Insoumise devait attraper et secouer François Fillon ou Nicolas Sarkozy pour récupérer des sommes d'argent. Alors, de là, est-ce que ces initiatives incitent les jeunes à voter le 26 mai, rien n'est moins sûr.
Oui, c'est pas gagné. Merci, Paul. La scène. Eva Rock.
Le mercredi était présenté au Festival de Cannes le premier film français Les Misérables, signé Ladj Ly, le réalisateur de 39 ans. Le réalisateur de 39 ans a grandi et vit toujours dans la cité des Bosquets à Montfermeil, c'est à 12 km de Paris. Mathieu Charlier nous en parlait hier matin et comme beaucoup de critiques cinéma, il ne cachait pas son enthousiasme à la vue de ce long métrage qui raconte la vie dans les banlieues. Et bien figurez-vous que Ladj Ly avait déjà réalisé un web documentaire sur ce quartier. C'était en 2005, au lendemain de la mort de Ziad Ebouna. Pendant un an, il a filmé notamment les affrontements entre les jeunes et les forces de l'ordre, comme ce soir-là.
Ouais, le seul moyen de se faire entendre, c'est avec des pierres.
Mais entendre, donc vous avez des choses à dire alors?
On a beaucoup de choses à dire.
Bah alors vas-y, dites-le. Qu'est-ce que vous avez à dire?
On a à dire quoi?
Qu'on existe.
On existe, on est là.
On n'est pas des chiens.
Bah ouais.
Bah allez, rentrez chez vous là. Ça sert à rien de niquer les keufs là. Ça va rien changer. Allez, allez.
Et quelques mois plus tard, lors d'une visite de Nicolas Sarkozy au commissariat de quartier, c'est un des jeunes et un ancien qui s'invective devant les policiers.
Il faut arrêter de nous sortir, rentrer chez nous. On va rentrer où chez nous? On est né là. Notre pays, c'est la France.
Alors tu la respectes?
Je la respecte, la France. Et vous, vous respectez pas votre pays, là, comment vous parlez, là, facho, vous avez pas honte?
C'était il y a 14 ans et à en croire le réalisateur, eh bien rien n'a changé, les tensions sont toujours aussi vives. La situation qui est décrite dans ce film qui est disponible sur YouTube, 365 jours à Clichy-Montfermeil, est la même. Excellent web documentaire dans lequel le réalisateur ne cède jamais à la facilité. Il n'est pas question de prendre fait et cause pour ceux dont il partage le quotidien, mais pas question non plus de dire que les flics sont tous pourris. Il y évoque surtout la difficulté à affirmer une identité dans ces quartiers oubliés des politiques et surtout oubliés de la société. Vous regardez ça sur YouTube, c'est vraiment génial. 365 jours à Clichy-Montfermeil.
Passionnant. Merci beaucoup Eva Rock et merci à toute l'équipe des Montuyaux qui se reformera lundi. Je vous félicite, je trouve que c'était vraiment bien ce matin, même si évidemment ce n'est pas à nous de le dire, l'auto-congratulation journalistique étant réservée par des crédits à Diane Chenouda.
Ouais, j'en avais parlé sur Europe et c'était passionnant.
On ne peut pas se permettre ce genre de choses.
Europe 1. 5h57, Mathieu Noël.
À suivre dans Debout les copains, votre météo avec Céline Dacosta et le journal de 6h02.
Céline Kalman. Il est 5h58, Mathieu Noël.
Oui Céline, il serait bien que nous fassions un point sur la météo du jour, surtout qu'une chute des températures dans le sud-ouest nous attend.
Oui, on perdra jusqu'à 10 degrés par endroit cet après-midi. On sera donc 7 degrés sous les normales de saison. Il en faisait 24 à Toulouse, il n'en fera plus que 14 cet après-midi. Ça va même baisser jusqu'à 12 degrés du côté de Tarbes. Pour les autres, ça reste plus doux, 16 à 20 degrés en moyenne, jusqu'à 21 degrés même attendu encore dans la capitale. Et puis ce matin, on se rapproche des normales de saison. Encore un petit peu de fraîcheur dans le nord-est, mais il en fait 10 à Brest, 11 à Paris, 12 à Lyon, 13 à Agen ou encore 15 à Nice.
Côté ciel, comme prévu, c'est la pluie qui est de retour.
Oui, c'est vrai. Alors, il va rester quelques éclaircies quand même sur la moitié nord ce matin, mais dans le sud-ouest, c'est déjà bien pluvieux. Des averses localement soutenues, de la neige sur l'ouest des Pyrénées. Les pluies vont ensuite gagner toute la moitié sud, la Corse également dans le courant de la matinée. Les orages feront également leur apparition cet après-midi et la neige des 2000 mètres sur les Alpes. Pour la moitié nord, après les quelques éclaircies de ce matin, le ciel va se couvrir davantage. Des averses possibles surtout près de la Manche et puis on pourrait encore avoir quelques rayons de soleil au milieu de tout ça. C'est quand même les nuages qui vont l'emporter aujourd'hui.
Hélas, merci Céline.
Europe 1, 5h, 7h, Mathieu Noël.